Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Arthur. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci pour l'invitation.
Alors, j'étais invitée dans mon podcast car je cherchais à interviewer une personne qui a ouvert un restaurant. Je t'avoue que je voulais plutôt une femme. Mais quand j'ai vu le post sur
Pas de chance.
LinkedIn, ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Moi, je me dis, les choses, des fois, sont bien faites. Parce que j'ai vu le post de Ben Mira sur LinkedIn. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être la bonne personne.
Ok, c'est vrai que c'est un message assez touchant de la part de Ben.
Alors, on va en parler. D'abord, est-ce que être entrepreneur, c'est si dur?
On le choisit. C'est un choix d'être entrepreneur. Donc c'est pas dur. Disons qu'il faut être résilient pour aller au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais c'est pas dur parce que c'est un choix. C'est dur quand on choisit pas ce qu'on fait.
Justement, dans ce post LinkedIn, il disait aussi que l'idée, c'était de faire un appartement food.
C'est ça. L'objectif au départ, c'était de. Parce que nous, moi, j'étais à l'EM, donc je devais partir à l'étranger, ce qui fait que je devais créer un projet finalement éphémère. Et acheter un local commercial, bah, c'était dans la durée. Donc j'ai regardé en fait les possibilités qui s'ouvraient à moi. Et effectivement, Airbnb mettait des clauses où on pouvait exercer une activité dans un appartement, à condition que le propriétaire soit d'accord avec ça. Et donc je m'étais dit, ok, bon, on va trouver un appartement où qui soit assez grand pour faire de l'emporter, qu'on puisse recevoir des personnes aussi sur place, avant Covid, hein, c'était en 2018. Et du coup, effectivement, on devait lancer ça dans l'appartement. Et avec l'engouement qu'il y a eu notamment autour des insectes, la mairie nous a contactés pour nous dire que c'était pas possible, qu'il fallait trouver une autre solution et qu'ils nous interdisaient d'ouvrir dans l'appartement. Donc c'était un premier obstacle qui s'est mis sur notre chemin.
Et vu que c'était quelque chose d'éphémère, t'as choisi de faire quoi?
Et bah du coup, c'est vrai qu'avec l'engouement qu'il y a eu, ça m'a encouragé dans le fait qu'il fallait que j'entreprenne et que j'avais pas qu'un projet éphémère entre les mains. C'était un projet de vie. Donc j'ai décidé de trouver les fonds, de trouver un local, trouver les personnes qu'il fallait que je m'entoure pour mener à bien le projet et pouvoir construire quelque chose de concret. Et on n'était plus dans quelque chose d'éphémère, mais quelque chose de vital et pour la vie, quoi.
Donc là, t'as cherché le local.
Donc là, à ce moment-là, quand on a eu ce premier obstacle, il a fallu effectivement trouver le local. C'était pas évident parce que Strasbourg, c'est une ville où les prix sont très très élevés. Quand on est étudiant, quand on choisit la restauration, c'est un double facteur de risque. Étudiant, on n'a pas de revenu fixe, donc pas de chômage. Et on n'a pas de sécurité avec des épargnes qui peuvent être grandes. Même si j'avais travaillé auparavant, ça ne suffisait pas pour les banques. Et les locaux qui sont bien situés sont très onéreux. Donc il faut des garanties pour les banques, parce qu'aujourd'hui, les banques ne prennent pas de risque. Elles veulent quelque chose qui leur apporte finalement un coup sûr, ou en tout cas qu'elles ne perdent pas. Et nous, c'était une grosse prise de risque. Donc, effectivement, il a fallu trouver la banque, trouver les fonds. Et donc, ça a pris 1 an et demi, 2 ans.
D'accord. Avant de trouver le local que tu as là maintenant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en avril 2018, on devait lancer dans l'appartement et on a ouvert en décembre 2019 à la Cruteno.
Et pendant tout ce temps, tu t'es pas dit que ça marchera jamais?
Non, moi non. Moi, j'ai entendu beaucoup de ça autour de moi, que ce soit des proches, la famille, beaucoup n'ont pas cru en ça. Mais ceux que je me suis entouré, qui sont aussi devenus la famille, comme Ben et Joe par exemple, eux ont toujours cru en mon projet, toujours cru en mes idées, et aux valeurs que je souhaitais véhiculer et mettre en place. Donc j'ai jamais baissé les bras et la patience, c'est la clé du bien-être. Donc il a fallu être patient, ce qui n'était pas du tout ma qualité première. Mais avec la résilience et les obstacles qu'on rencontre, il faut savoir faire le dos rond quand il faut pour pouvoir ensuite mieux rebondir.
Et t'as fait quoi pendant ces 1 an et demi?
Pendant 1 an et demi, j'ai travaillé beaucoup. Déjà, j'ai travaillé à côté. J'ai travaillé en emploi vendeur pour avoir une rémunération partielle et en même temps pouvoir avoir le chômage quand j'ouvrirai, pour avoir une aide à l'entrepreneur, ce qui a permis aussi de rassurer les banques sur les premiers mois. Puis j'ai travaillé beaucoup sur le business plan parce qu'il a fallu toujours se tenir au courant des nouvelles tendances food, de ce qui se faisait, des différents locaux qu'on pouvait avoir parce qu'on en a visité plein. Mais entre l'accord du propriétaire, l'accord de la banque, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour trouver le local, le financement qui va avec, qui correspond au projet, qui correspond à la cible de clients dans le quartier, que ça a mis beaucoup de temps. Et puis il a fallu trouver aussi des partenaires bancaires, c'est-à-dire qu'effectivement la banque, elle peut vous faire emprunter, mais il faut trouver des garanties. Donc je me suis rapproché de la BPI, d'Alsace Active, d'Initiative Strasbourg. de plein d'organismes qui peuvent effectivement nous accompagner pour assurer les banques. Et donc ça, le temps de tout mettre en place, la validation des dossiers devant les jurys, etc., ça a mis beaucoup de temps. Mais le plus long, c'est de trouver le local.
Je sais qu'Adèle, elle a eu du mal à trouver le local, mais bon, c'était un love store.
Ouais.
Mais je me dis en fait que peu importe, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que la restauration, en plus de ça, il faut avoir des normes. Il faut avoir une évacuation pour tout ce qui est la partie chaud. Donc il faut que ça monte au-dessus des toits. Donc il y a beaucoup de normes. Il faut que ça soit isolé. Il faut qu'il y ait un plafond couvre-feu. Que ça soit compatible avec les accords de syndicat. Donc il y a énormément de réglementations en France pour que finalement les restaurants soient dans les meilleures conditions d'hygiène, aussi bien pour les voisins que pour le quartier. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, d'autant plus que, y a plein de bâtiments qui sont classés historiques à Strasbourg, donc qui nécessitent aussi des réglementations. Donc tout ça, en fait, pendant 1 an et demi, il a fallu étudier à chaque fois ces différents paramètres pour présenter un dossier solide et dire à la banque on veut celui-là et voilà comment on va le développer.
Et la suite, c'est que ton associé a craqué et a quitté le navire?
Bah, on a ouvert, donc avec mon ancien associé, effectivement, en décembre 2019. On a ouvert le 7 décembre, précisément. Et c'est vrai que la restauration, on en viendra après, je pense. C'est vrai que c'est très, très intense. C'est pas donné à tout le monde. C'est aussi physique, aussi bien physique que mental. Et lui, au bout de 2 mois et demi, il a d'ouverture. Alors que ça faisait quand même 1 an et demi que je travaillais dessus. Je comptais surtout sur lui pour la partie cuisine, parce que c'était sa passion. Donc voilà, lui, il était en parallèle, il faisait les études. Donc lui, je l'ai vraiment laissé tranquille pour qu'il fasse ses études tranquillement et moi, que je gère l'ouverture du projet. Et c'est vrai que quand on a ouvert, au bout de 2 mois et demi, il y a eu commencé à avoir les annonces du Covid. 2 semaines avant le premier confinement, il m'a annoncé qu'il souhaitait arrêter. On tombe un peu des nues. On se dit, bon, bah, ce qui doit se passer après tout. Il y a pas de. Il faut. Voilà, après 1 an et demi, c'est pas quelque chose comme ça qui va m'arrêter. Donc il fallait effectivement rebondir. Et finalement, il m'avait laissé un délai pour arrêter. Et il est parti finalement du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvé effectivement seul. Le salarié qui était présent sur place, qui était cuisinier. Là, je parle un peu à cœur ouvert, je te le cache pas. Mais le salarié qui était sur place à ce moment-là, on s'entendait super bien. Il devait reprendre du coup bah justement la place de Nathan. C'était vraiment tout était coordonné et finalement ça s'était plutôt bien goupillé. Et puis finalement, bah lui aussi, à son tour, il a voulu un peu me la mettre à l'envers, hein, si je puis dire, en me demandant d'être à même hauteur que moi dans l'entreprise, sur la façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'il voulait être président aussi. Alors que moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le projet, donc il y a aussi une adéquation. Moi, je cours pas après les paros, je cours juste après le respect et transmettre les valeurs. C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place en 2 ans, c'est même un projet d'une vie, hein. Ça, c'est un projet concret. Moi, ce projet-là, je l'ai en tête depuis que je suis en DUT. En DUT, déjà, je commençais à créer des projets entrepreneuriat en école. J'avais créé une salle de sport avec un concept de restauration qui était dans le même type. Donc c'est quelque chose qui est mûri depuis des années et des années. Donc quand quelqu'un arrive et vous dit, bah non, moi je reprends tout. Bah, en fait, du coup, on a fait une rupture conventionnelle où il devait reprendre les parts de Nathan. Et finalement, il est parti, il m'a mis à l'envers. Et donc du coup, effectivement, je me suis retrouvé tout seul au premier confinement. Et moi, j'étais pas du tout formé à la cuisine. Donc ça, c'était un élément bah, nouveau pour moi. Mais on apprend beaucoup des autres. De ce qu'il faut faire comme de ce qu'il faut pas faire. Et moi, je les ai vus en cuisine pendant les 3 premiers mois. Donc, je me suis mis au fourneau et j'ai charbonné. Et en une semaine, j'avais acquis tout ce qu'ils avaient acquis en 3 mois. Parce que c'est la résilience. Il faut pas, il faut pas, il faut. On apprend vraiment beaucoup des autres, même encore plus quand ils font mal les choses. C'est là où il faut le plus s'inspirer, je pense. Et donc, voilà. Et après, pour l'instant, on est toujours en vie, même si chaque jour, on se demande ce que demain sera.
Et t'as pris un nouvel associé ou pas du tout?
J'en ai cherché, mais c'est vrai que c'est un peu comme un associé, c'est finalement comme un mariage.
Exactement.
C'est un mariage, et moi, j'avais pas cette notion-là au départ avec mon ancien associé. Je le voyais plus comme étant effectivement de la confiance mutuelle, mais un mariage, c'est au-delà de la confiance. C'est plus fort que ça. et s'associer, c'est effectivement un mariage sur la vie et qui prend un aspect financier, personnel. C'est vraiment un ensemble de choses, là où finalement un mariage avec sa compagne ou son compagnon, c'est principalement de l'amour, de l'affect, et on peut mettre de côté le côté professionnel. Là, il y a tout qui est mélangé. Et donc, du coup, j'ai cherché, cherché, mais j'ai jamais trouvé. Et finalement, bah, j'ai dû recruter. J'ai dû recruter. Et puis après, avec l'autonomie, les réflexes qu'on prend au fur et à mesure, j'ai réussi à gérer seul. Et j'ai la chance d'avoir trouvé des super stagiaires à l'EM qui ont développé avec moi le business sur la partie épicerie, etc. Parce que c'est vrai que le premier confinement, la restauration a tellement pris un coup que je me suis dit qu'il fallait créer autre chose que la restauration. Donc j'ai développé l'activité épicerie en parallèle et ça s'est fait au fur et à mesure.
Mais je reviens au fait que pendant le premier confinement, tu étais seule, c'est-à-dire pour faire un... Tu étais vraiment seule ou tu avais d'autres équipiers avec toi?
Non, j'étais seul, c'est-à-dire que il fallait produire, vendre. Mais après, c'était que de la livraison, donc il n'y avait pas tout
Oui.
le service sur place. J'étais seul. À l'époque, j'avais quand même une compagne qui m'aidait. Ma compagne à l'époque m'aidait, ou voilà, mais quelques fois par semaine. Hein. Mais non, j'étais seul. Après, comme dit, les réflexes viennent et puis on apprend assez vite sur le terrain. Vous savez, quand on se retrouve au pied du mur, il n'y a pas d'autre choix que de sauter.
Mais est-ce qu'on peut dire que ouf que ça arrivait pendant le confinement où il y a que des où il y avait que des livraisons? Parce que je me dis, oh, c'était en période normale et que tu te retrouves tout seul.
Les choses sont bien faites.
Oui, c'est ça que je veux
Avec le
dire.
recul, les choses sont bien faites parce que c'était le seul moment finalement où, truc tout bête, mais juste avant, j'avais été formé par mon salarié 2 3 jours où je m'étais mis en cuisine pour voir comment ça faisait. Une semaine après, je me suis retrouvé seul. Donc c'était un signe du destin qu'il fallait effectivement que, même pour gagner en légitimité, demain, si je dois former des personnes pour rentrer dans mon entreprise, faut que je sois légitime de lui dire que c'est comme ça que ça se passe en cuisine, qu'il vaut mieux faire ci comme ça pour que les process soient bien assimilés. Donc tout est fait quand on prend le recul et qu'on regarde. Sur le moment, effectivement, c'était difficile à encaisser. Mais quand on prend le recul, les choses sont bien faites. D'avoir un associé, ça m'a permis d'ouvrir. J'aurais été seul, j'aurais pas pu. Et ainsi de suite. Et au final, ceux qui sont toujours là, c'est Ben et Joe, quoi.
Mais ils sont pas en cuisine.
Ils sont pas en cuisine, mais ils travaillent pour que les gens
Ouais.
viennent.
Bah, tu as un pull que vous avez fait ensemble.
Ouais. C'est un peu le symbole de tout ce qu'on a fait depuis le début. Ouais.
Mais c'est sûr que quand tu montes quelque chose comme ça et que tu te retrouves seul un peu du jour au lendemain, c'est dur de ne pas se dire je vais tout fermer, je vais rentrer, je vais me coucher 48 heures, ça ira mieux.
C'est un peu ce qu'a dit Ben sur les réseaux. Après, je pense que si on serait à ma place, on aurait tous fait la même chose. Quand on a le vécu que j'ai pu avoir, etc., on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Et puis, ouais, non, il y a eu plein de choses. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, pareil, ma compagne s'est terminée après 5 ans de relation.
Et là,
C'était.
t'as coché tout.
Toutes les cages, c'était un renouveau, quoi. Il y a eu tout
Ah
un nouveau mode de vie.
bon, j'aurais dit, tu peux pas après. Ou avant, tu vois, mais pas
En
maintenant.
vérité, il vaut mieux tout faire sur le
Ouais.
moment et comme ça on sait même plus à quel problème on pense.
Ah voilà, tu fais page blanche,
Ouais.
tout. Allez, plus d'associés,
C'est
plus
ça.
personne, plus de
C'est ça.
meufs. Qui
C'est
d'autre
ça.
veut partir
Exactement. Exactement.
Et donc, voilà, et après, il parlait de la partie épicerie. C'est des muesli et de la pâte à tartiner.
Granola à pâte à tartiner qu'on a développé au premier confinement. Donc, enfin, que j'ai développé au premier confinement, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais déjà ça en tête, mais c'était vraiment à long terme parce que la restauration devait se développer. Et puis, quand tous les restaurants ont fermé, les bars, etc., je me suis dit, moi, j'ai ouvert le restaurant parce que c'est ce que je consomme. Les burgers, j'aime beaucoup en manger, j'aimais beaucoup en manger, mais je trouvais pas de solution qui me permettait d'en manger tous les jours parce que tout était hyper calorique. Du coup, j'ai créé ça avec des nutritionnistes. Et au petit déjeuner, moi, j'étais très pâte à tartiner, très granola, céréales, etc., tartinade. Donc, je me suis dit, bah, les magasins de première nécessité, eux, resteront toujours ouverts. Et c'est là aussi où on peut toucher les gens pour améliorer leur santé, pour qu'ils consomment mieux, pour l'environnement, pour leurs enfants aussi. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, vu que la restauration avait pris un coup, de développer ça. Et développer ses deuxièmes activités.
Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe Ok, t'as l'idée et tout, c'est cool. Je pense que t'as appelé les gens que tu connais dans la nutrition pour faire la pâte à tartiner.
En fait, à ce moment-là, je regarde, moi, pour faire des recettes, bah, effectivement, je fais appel au nutritionniste pour qu'il contrôle, pour qu'il rectifie au niveau des ajustements. Je fais appel à un chef cuisinier pour la partie restauration. Mais pour la partie épicerie, là, j'ai beaucoup regardé Pinterest, Instagram,
Ah ouais?
des sites de food, de blogueurs, etc. Et puis j'ai fait plein d'essais pour voir qu'est-ce qui se mariait le mieux, etc. Et là, par chance, j'ai trouvé un mix de plusieurs recettes que j'ai réussi à réaliser, qui m'a donné une texture que je voulais, qui m'a donné le goût que je voulais. Et qui était vegan, sans lactose, équilibré nutritionnellement, donc qui était validé par le nutritionniste. Et les granolas, pareil. Mais pour le coup, c'est pareil. Hein, si je devais recréer ça aujourd'hui, je ne sais pas si j'y arriverais. C'était sur le moment, en fait.
C'est souvent comme ça en
Ouais,
fait.
peut-être, ouais.
Et tu cherchais quoi en fait comme pâte à tartiner idéale?
Que ce soit.
Enfin, au niveau du goût et de la texture.
On sente la noisette, le cacao. Parce qu'aujourd'hui, on sent toujours le sucre en premier. Donc, c'était l'élément essentiel. Et là, récemment, en fait, on a même amélioré la recette parce que du coup, on est passé sur Yuka. Donc, on a amélioré la recette pour être à 100 sur 100, pour être vraiment la première pâte à tartiner de France, parce qu'on était à 80 et quelques. Donc, on était à égalité avec une autre. Et là, en fait, on a amélioré la recette. On a 25% de noisettes. Donc, on est ceux qui contiennent le plus de noisettes sur le marché en termes de nutrition. Cacao, protéines de chanvre, locales, le chanvril,
Ouais, j'ai fait avec lui
Guillaume
un
que je salue.
podcast.
On a du vegan, c'était important aussi pour moi d'être sur ce produit-là parce que ça permet d'avoir une meilleure assimilation quand on n'a pas de protéines animales, c'est plus digeste. Donc ça, d'avoir que du sucre naturel. Donc là, on est principalement cette adatte ou du sirop d'agave, donc un sucre non raffiné. Donc, voilà qu'elle soit vegan. Que les ingrédients principaux qui constituent une pâte à tartiner, c'est noisette
Mais
et
c'est ça qui est le
cacao.
plus cher aussi. C'est ça qui est le plus cher dans une pâte à tartiner. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent plus de
C'est
sucre.
pour ça, bien sûr, le sucre, c'est ce qui coûte le moins cher hein, en
Voilà.
matière première. Mais nous, du coup, on n'utilise quand même pas de sucre, on n'utilise que du sirop d'agave ou de la datte. Donc, effectivement, on sera plus cher qu'une pâte à tartiner comme une Nutella. Mais nous, on est sur un prix qui est à 5,50 € plus 50 centimes de consigne. Donc, ce qui permet d'avoir une politique de zéro déchet sur le produit. Et qui fonctionne très bien, et c'est vrai que d'être sur 100 sous Yuka, ça nous donne une notoriété et une légitimité qui est au-delà de nos espérances.
Et on peut retrouver donc cette épicerie à la Biocoop.
Effectivement, on a signé récemment avec Biocoop sur Strasbourg, donc là on a Coquelicot et Neudorf, et puis on a d'autres boutiques aussi en Alsace et Strasbourg qu'on a pu développer, une petite dizaine. Et on continue de poursuivre le chemin avec les granolas aussi. Et ça, c'était vrai que c'était une récompense d'un long travail. C'était un premier soulagement de se dire qu'effectivement, ça pouvait plaire à des chaînes comme ça, parce que ça faisait finalement depuis mars l'année dernière que j'avais travaillé dessus.
Parce que j'avais rencontré deux jeunes hommes qui avaient fait aussi des... Mais c'est des muesli, c'est pas...
D'accord.
Les granolas, c'est les timbrés, mais ils
Ouais.
n'existent plus.
Non, ils n'existent plus, mais j'avais eu l'occasion d'échanger avec eux à l'époque. Sur leur projet, effectivement, ils ont changé complètement de voie. Je crois qu'il y en a un qui est devenu naturopathe et un autre qui est devenu commercial, je crois, sur Paris. Mais effectivement, ils ont arrêté, mais ça marchait bien aussi, je crois, leur produit.
Mais est-ce que c'est difficile en fait la food de se mettre en épicerie comme ça? Parce qu'il y a des concurrents, c'est
Le
sûr.
plus dur, ça reste la restauration.
Quand même plus dur que
Ouais,
l'épicerie.
parce que l'épicerie en soi, dès qu'on a les recettes. Il suffit d'avoir un bon produit, les valeurs qui sont cohérentes à ce qu'on veut, de trouver les boutiques qui veulent référencer notre produit, et après, bah, le bouche à oreille, les gens qui achètent, etc., la communication qui va avec, ça va assez vite. La restauration, c'est une concurrence qui est permanente. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a que de la livraison. Donc, faut se dire qu'aujourd'hui, les plateformes Deliveroo, Uber Eats, c'est comme une rue principale où vous avez toutes les adresses qui sont dans cette même rue. Et donc, qu'est-ce qui les différencie? C'est la notoriété dans un premier temps. Donc, les grandes chaînes, ceux qui sont implantés depuis très longtemps. Nous, quand on vient de démarrer, c'est plus difficile. Et donc, il faut faire des actions de communication ou des choses comme ça. Mais on grappille petit à petit du terrain et c'est assez difficile la restauration.
Mais j'avais regardé Deliveroo, vous avez quand même beaucoup de notes sympathiques, hein, vous êtes très bien noté, il y a plus de 300 personnes qui ont noté.
Ouais. Alors, après, 300 personnes en soi sur un an, c'est pas forcément énorme. Mais effectivement, on est très bien noté. C'est vrai que les clients, quand ils viennent goûter, ils reviennent. Mais le plus dur, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place à travers le site internet qu'on vient d'ouvrir en click and collect, en faisant des campagnes de pub via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, parce que c'est le manque de notoriété, encore une fois, et aussi la légitimité. Qu'est-ce qu'on propose de plus que les autres burgers qui sont déjà très bons? Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez nous plutôt que chez un autre? Et donc ça demande du temps.
Ouais, mais t'as quand même construit des burgers complètement différents. La dernière fois, je regardais les burgers, je sais pas quoi choisir, vous êtes tous pareils.
Ouais, c'est vrai qu'on est complètement différents, mais après, truc tout simple, hein, mais tout à l'heure, je regarde un commentaire sur un... Parce que moi, je regarde beaucoup les commentaires, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait pour me tenir à l'actualité. Et sur une campagne de sponsoring qu'on met sur Facebook en ce moment, il y a une affiche où c'est écrit. Et du coup, sur cette sponsoring, c'est écrit. Quand on. Il y a un mème d'une femme de Friends qui dit. Quand on mange. Quand on sait qu'on peut manger burger sans prendre de poids. Et donc, du coup, il y a un commentaire où ça dit. Non, moi, j'aime que la viande. Sauf qu'à aucun moment dans ce post-là, ça parle qu'on ne propose pas de viande ou que c'est vegan. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une partie de la clientèle, effectivement, qui va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il faut leur donner envie d'aller plus loin, de cliquer, de leur expliquer tout le concept. Et ça demande une grosse pédagogie. Parce que vu que c'est innovant, on peut être confondu parmi tous les burgers, alors que pas du tout. Donc c'est une vraie pédagogie qui demande du temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, bah, c'est limité avec le Covid actuel.
Qu'est-ce que ça fait de monter sa boîte si jeune? Parce que quand je vous regarde tous, vous me fascinez, hein. Je vais quasiment avoir 30 ans. Et même à 30 ans, je me dis, mais est-ce que je suis assez mature, tu vois, pour avoir ma boîte? Donc, t'as quel âge? T'as l'anniversaire aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est mon
Donc,
anniversaire.
joyeux anniversaire.
Merci.
25?
Merci. 25 aujourd'hui, un quart de siècle. Je sais pas si c'est une question de maturité parce que moi, je m'attendais pas à entreprendre aussi rapidement. Moi, j'ai fait 3 ans d'alternance avant d'intégrer l'EM. Donc, ça m'a beaucoup forgé sur les techniques de vente, sur l'aisance orale. Donc, c'est là où j'ai beaucoup progressé. Et l'EM m'a réconforté dans le fait qu'effectivement, l'entrepreneuriat pouvait être à terme un moteur dans ma vie. Mais je pensais pas du tout que ça se fasse aussi rapidement. Et puis le sentiment de liberté qu'on a quand on... Moi en fait, entre l'ouverture en avril 2018 où je devais ouvrir dans l'appartement et la fin de ma scolarité de ma deuxième année à l'EM qui était en mai 2017, j'ai fait un stage. Un stage dans un cabinet de recrutement où j'étais business developer. Donc j'étais vraiment chargé dans un petit cabinet de développer tout le business, d'aller prospecter, etc. Et j'étais assez dégoûté par l'ambiance, par la non-prise en compte de certaines valeurs qui pourtant ils souhaitaient les véhiculer, ils en parlaient beaucoup. Moi, je me rends compte hein, dans l'entrepreneuriat que c'est une jungle. C'est-à-dire que c'est une jungle où il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont telle ou telle valeur, mais qui ne les appliquent pas eux-mêmes. Et dans ce cabinet-là, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, moi, c'est tout ce que je veux pas. Et en tant que salarié, des fois, c'est difficile d'imposer sa vision. Et ce qui est tout à fait normal, parce que finalement, t'es salarié et au-dessus de toi, il y a des règles et c'est eux qui veulent mettre le cabinet à leur image. Donc du coup, la seule solution, c'est d'entreprendre. Et je devais partir effectivement en Afrique du Sud, pour ma dernière année à l'EM. J'étais très enthousiaste à l'idée-là, parce que c'était une place qui était très demandée et puis moi, j'étais jamais parti à l'étranger. Et c'était une recommandation de l'EM de partir à l'étranger, une obligation même. Et puis finalement, l'entrepreneuriat s'est ouvert à moi et c'était une suite logique à ça. Mais non, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est un concours de circonstances. Le tout, après, c'est de s'adapter et surtout de ne pas lâcher.
T'as toujours été optimiste comme ça? Ou tu l'as appris?
Je dirais pas que je suis optimiste.
T'as
Je dirais que je suis
résilient?
réaliste.
Réaliste?
Réaliste et résilient. Ce qui fait que à chaque situation, il y aura une solution. Peu importe quand, mais il y en aura une. Et puis, faut toujours s'attendre aussi au pire. Demain, on peut fermer. Tant que le Covid est là, nous, ça fait depuis décembre qu'on attend les aides de l'État. Oui, donc c'est pas. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des soutiens, que la banque nous soutienne.
T'as pas d'aide de l'État?
Pas encore reçu.
Ah, donc tu vis à crédit?
Donc, on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir en jonglant avec les fournisseurs, etc. On a de la chance de travailler avec des producteurs locaux, des fournisseurs qui sont conciliants, qui comprennent, qui aussi arrivent à trouver d'autres solutions. Mais voilà, et puis récemment, on a fait une belle rencontre avec Ben & Joe qui vient s'ajouter à l'épicerie, au restaurant, et qui va sûrement effectivement, probablement investir de l'argent. Surtout investir son temps, de tout son travail qu'il réalise. Alors je pourrais pas dire le
Oui, j'allais
nom
dire, c'est une autre
de...
personne, c'est ça?
C'est une autre personne, je pourrais pas dire le nom, etc. Mais qui... C'était un peu l'ange gardien qui est arrivé au bon moment.
Et un jour, on le saura, qui
J'espère.
Et donc, en fait, ouais, mais il n'y a pas eu que du négatif. Si, c'est un peu dur tous les jours, mais il y a quand même eu des choses cool malgré tout.
Il faut en tirer du positif, ouais. Il faut en tirer du positif. Mais là, on est encore sur une phase. Moi, comme je dis toujours, pendant un an, j'ai été un peu un rat d'égout où on était au fin fond, dans les caveaux des souterrains,
À ce point, tu penses?
qui étaient recouverts dans un tunnel de tram, de
T'abuses
métro.
pas. Mais pourquoi cette vision?
Parce que, en vérité, hein, quand on descend aussi bas. Enfin, voilà, quand on entreprend, on ne s'attendrait pas à ça. Quand on arrive 3 mois, on a très bien commencé le restaurant, et puis il y a notre salarié qui arrête, le salarié qui veut reprendre, qui nous la met à l'envers, on se retrouve seul, plus de compagne au bout de 5 ans, le Covid qui arrive, nous au premier confinement on n'a pas le droit aux aides, parce qu'on est d'être créé, donc il a fallu trouver des systèmes. Ouais, c'était une longue période de down. Mais il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie, et c'est comme dit, c'est l'entrepreneuriat, c'est un choix. Donc il faut juste faire le dos rond, attendre, patienter, et après en tirer du positif. Bah, c'est juste se dire qu'il faut travailler deux fois plus pour réussir deux fois plus.
Et parlons de quelque chose encore de plus positif, c'est ta passion pour la food et la nutrition, elle vient d'où?
En fait, moi j'ai joué à très bon niveau au foot jusqu'à 17 ans. J'étais en sport-études à Annecy. Donc niveau national, et moi par contre à l'époque je mangeais toutes les semaines McDo.
Tu fais partie de ces gens-là qui mangeaient tous les jours McDo?
Non, pas tous les jours, toutes les semaines.
Semaine.
C'était mon argent de poche, je mettais une partie dans le McDo, tous les mardis on y allait, on terminait à midi, on reprenait les cours je crois à 15-16 h. Le soir on avait entraînement, mais tous les mardis midi on allait au McDo. Et voilà, et beaucoup de blessures, ouais. Beaucoup de blessures, on s'en rend compte. Après recul, hein, que les blessures, elles sont pas psychologiques, elles sont physiologiques. Donc ça vient vraiment du corps, de ce qu'on consomme. Aujourd'hui, beaucoup d'études démontrent que l'alimentation, ça prend 70% d'une performance sportive. C'est une grosse partie mentale aussi, hein, mais donc voilà. Et donc c'est vrai que quand j'ai arrêté le foot pour les études, j'ai complètement coupé le foot. Je me suis mis beaucoup à la salle de sport. Donc du coup, ça allait avec la nutrition. Et je me suis dit que maintenant, pour compenser le fait que je faisais plus de foot à haute intensité, il fallait que je fasse beaucoup de salles de sport, que je renforce mes muscles pour arrêter d'être blessé, plus avoir de maux de corps. Et donc l'alimentation, ça faisait partie de intégrante. Et je m'en suis rendu compte que après, bah, la santé, la forme, la vivacité, l'énergie qu'on pouvait avoir au quotidien, c'était déterminé par ça.
Donc tu t'es plongé là-dedans pour mieux comprendre?
Je me suis plongé là-dedans pour me déjà cuisiner tout seul, parce qu'à 17 ans, moi j'étais tout seul, hein. J'avais un appartement à 17 ans, j'ai dû loin de ma famille, j'ai déménagé parce que j'étais. Moi en fait, quand j'ai terminé les études, quand j'ai terminé mon bac, mon premier trimestre, j'ai eu 9-3, avertissement travail, comportement, j'étais en bac ES, parce que moi je misais tout sur le foot. Deuxième trimestre, 11-3, parce que je sais que je vais pas signer, donc j'arrive à avoir des encouragements. Et le seul IUT en France qui me prend, c'était Auxerre, en DUT technique de commercialisation en alternance. Parce que eux, ils considéraient qu'avant le bac, enfin avant les DUT, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc on peut être mauvais à l'école, on peut ne pas avoir des avertissements ou autres. Eux, ils donnaient vraiment cette chance-là à des personnes comme nous qui, pendant l'entretien avec l'école, ils voyaient le potentiel qu'on pouvait avoir ou la vision qu'on avait. Et simplement que l'école d'avant n'était pas compatible. Aujourd'hui, on nous met tous un programme généralisé. Et qui nous dit pas ce qu'on peut faire demain, qui va pas nous guider sur ce qu'on aime faire. C'est peut-être difficile de réaliser un programme personnalisé pour chaque élève, ça je peux le concevoir. Mais quand on arrive au bac et qu'on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, c'est impossible de savoir. Moi je l'ai compris tardivement. Et donc du coup, ils m'ont donné cette chance-là. Et je me suis épanoui tout de suite. Mais ouais, ça a pris du temps, quoi.
Non, mais l'école, beaucoup de personnes que je connais, même les gens qui ont été les premiers de la classe, qui disaient, mais je me sentais pas à ma place. Donc il y a vraiment un problème, je crois, au niveau de la scolarité française.
Ouais, moi j'ai sauté une classe et pourtant, quand après j'arrivais en bac, etc., j'avais qu'une idée, c'était le foot, c'était le sport, c'était les potes. Parce que finalement, à l'école, on ne trouve pas forcément de matières qui nous épanouissent. On apprend tout un cursus généralisé, mais qui détermine pas vraiment qui on est, ni ce qu'on veut faire après. C'est plus de la culture. Sauf que la culture, on ne s'en sert pas pour la vie. On s'en sert pour un dîner, entre amis, pour parler des choses comme ça. Mais la culture ne nous nourrit pas nous-mêmes. Donc il faut apprendre de l'expérience qu'on peut vivre. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que les gens, personnes qui trouvent plus facilement leur voie, c'est ceux qui sont dans les métiers professionnels, professionnalisants, en compta, en BEP, etc. Parce qu'ils pratiquent. Donc ils savent tout de suite si ça leur plaît ou pas. Quand on est derrière un cahier, derrière un cours à écouter, on sait pas, c'est pas du concret.
Et en plus, on valorise moins les personnes qui font tout de suite du terrain, en fait.
Ouais, on pense que tout de suite on fait un BEP, un CAP, etc. C'est péjoratif, on est catégorisé. Mais en vérité, eux, ils savent dès le départ s'ils aiment ou pas. Et plus rapidement, ils s'épanouissent. Aujourd'hui, combien de jeunes ont ouvert leur boulangerie? Parce qu'ils ont su très rapidement que c'était leur voie. Des meilleurs ouvriers de France, etc. Il y en a plein qui sont de plus en plus jeunes. Parce qu'ils ont su rapidement trouver leur voie. Et on voit plein d'exemples en ce moment à la télé de jeunes boulangers qui reprennent leur boulangerie du village, etc. Tous ceux qui étaient en bac S, ES ou autres, qui étaient majeurs dans leur promo, il y en a plein qui sont encore perdus. Mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute au système.
Mais toi, Kevin, il y a plein de personnes qui viennent des BEP.
Ouais.
Enfin,
À
c'est pas
l'inverse, moi,
des
voilà. Moi,
grosses études en fait.
à l'inverse, voilà, moi, j'ai un système de commerce et je suis allé dans un système plutôt artisanal. Mais parce que dans l'artisanat, effectivement, c'est là où on touche directement les personnes au plus profond d'eux. Je veux dire, moi, quand les clients rentrent au restaurant, on peut parler avec eux. Ils voient ce qu'on fait, puis tout est fait maison, donc il y a une cuisine ouverte. Donc il y a tout un système qui se met en place. Et la partie finalement commerce que j'ai acquis à l'école, bah, c'est plus sur l'image que je veux donner, comment faire transmettre le bon message au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. C'est tout ça qu'on apprend en école. Mais le concret se fait sur le terrain.
Et je veux savoir, pour la partie restauration, comment tu fais avec le rythme?
Au niveau.
Enfin voilà, tu commences quand même tôt, je pense. Enfin, c'est des horaires que tout le monde n'aime pas.
Alors, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça
C'est
c'est.
très dur la restauration par rapport à, quand tu vois les autres qui mangent ensemble à midi, toi tu travailles, tu dois revenir l'après-midi, je pense, pour refaire le reste.
Disons qu'effectivement, il y a ça. Après, il y a la double complexité, effectivement, qu'on a lancé l'épicerie, où aujourd'hui on compte par des bonnes dizaines de kilos par semaine, donc il faut produire. Donc en général, l'épicerie, je la fais la nuit et la journée, je suis plus sur le restaurant. Donc après, c'est vrai que les heures de sommeil sont très courtes, hein, on dort 3-4 heures. Mais c'est un rythme qu'il faut prendre, c'est un rythme à s'habituer. Je veux dire, 10% des personnes, moi je me suis renseigné, 10% des personnes arrivent à tenir ce rythme-là toute leur vie. Ils ont besoin de 3-4 heures de sommeil.
Alors, il y a quelqu'un qui a fait ça. Je l'adore, mais il est un peu décédé. C'est Louis Pasteur.
Ok.
Il a fait beaucoup trop d'AVC parce qu'il travaillait beaucoup trop. Donc, il dormait en moyenne 5 heures. Mais je préfère prévenir
Mais c'est un bon
qu'il faut
exemple parce que
faire
Louis Pasteur,
attention, hein.
c'est un inventeur que j'ai étudié beaucoup à l'école. Souvent, je faisais des exposés.
Ah, c'est marrant.
Souvent, je faisais Louis Pasteur. Et récemment, pour la pâte à tartiner notamment, j'ai découvert la pasteurisation
De pasta.
de Louis Pasteur. Et c'est un mode que j'utilise tout le temps maintenant sur plein de produits. Et c'est là où je me dis que les choses sont toujours bien faites, hein, parce que j'ai beaucoup étudié. Aujourd'hui, j'utilise ce qu'il fait. Et donc du coup ouais, c'est une bonne information
Et
que
fais
j'ai là
attention.
sur ça. Après non, après je pense aussi ça avec l'hygiène de vie. Je mange bien, je fais du sport, donc dormir peu, c'est. Puis quand on se lève parce qu'on aime ce qu'on fait, c'est pas la même chose que quand on est contraint de faire 4 heures de sommeil.
Il aimait aussi ce qu'il faisait.
Il aimait aussi, après il avait pas les mêmes conditions de vie à l'époque.
Ouais.
À l'époque, il n'y a pas les mêmes conditions de santé, d'hospitalisation s'il y a des problèmes, ou de nourriture, etc. Donc c'est pas pareil, même si peut-être que l'alimentation était peut-être meilleure quand même au niveau qualitatif. Mais non, voilà, c'est un rythme de vie. Donc après, effectivement, il n'y a pas beaucoup de vie sociale. Pas beaucoup de vie sociale, ça c'est vrai, hein, il faut voir les gens la nuit. Si les gens sont aptes à te recevoir, t'es disponible la nuit. Et sinon, moi, je suis fermé le lundi. Mais c'est vrai que lundi, bon, on prépare la semaine sur la stratégie avec l'équipe, etc. Parce que maintenant, j'ai deux stagiaires. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de repos, non.
J'ai envie de te dire, c'est aussi la bonne période pour travailler beaucoup en 2020, 2021, parce que de toute façon, la vie sociale, elle est un peu pourrie.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, pour l'instant, je touche du bois, hein. Mais
Ok.
le Covid m'a épargné. Alors qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui l'ont eu.
Pareil.
Donc j'ai plus pour l'instant beaucoup beaucoup de chance. Et ouais, non. Aujourd'hui, la vie est arrêtée, donc c'est maintenant qu'il faut prendre de l'avance.
Mais tu vois, par rapport à la restauration Uber Eats et tout, j'ai déjà vu des restaurants qui ont dû arrêter l'appli parce qu'il y avait trop de monde qui venait chez eux. Je sais pas si toi ça t'arrive aussi ou.
C'est-à-dire en emporter?
Ouais, il y a trop de monde, trop de demandes, donc ils arrêtent l'appli.
Ça nous arrivait notamment quand il y avait du sur place, ou le midi quand il y a emporté, des fois effectivement des commandes, faut les mettre de côté, mais là depuis le nouveau couvre-feu, la cruno c'est au plus bas au niveau du monde. Je veux dire, nous on travaille, beaucoup de clients à nous sont des chercheurs, enseignants, start-up, travailleurs. Là aujourd'hui avec le télétravail, les lycées qui sont fermés, les universités qui sont fermées. Il n'y a plus toute notre clientèle, donc c'est principalement la livraison, et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, où le système d'une rue, Deliveroo ou Uber Eats, c'est une rue, et on se retrouve mélangé parmi la masse. Mais il y a des périodes, ouais, où il fallait. Moi, je privilégie toujours le client sur place ou à emporter,
Normal.
parce que là, il y a le contact, on peut discuter avec lui. La livraison, voilà, le livreur, il fait plusieurs commandes à chaque fois, donc des fois, ça arrive pas tout le temps chaud, c'est pas la même expérience. Donc, si effectivement, il y avait du monde sur place, j'hésitais pas à fermer. Surtout que maintenant, on travaille aussi avec Cooked Off. Service de livraison étiqueté local. Donc, quand Uber Eats ou Deliveroo, il y a beaucoup de commandes sur Google Off, je ferme Uber Eats et Deliveroo pour laisser place à une société qui est plus éthique.
Mais je me disais, ouf qu'ils existent. Non, mais avant, je les critiquais. Mais là, je me dis, avec le confinement, oh, mais ouf qu'ils existent, ces gens. Parce que sinon, comment on ferait?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après.
Bon, c'est chiant de le dire parce que, en fait, ils sont pas hyper éthiques. Enfin, avec leur faux employé.
Ouais, après
Ouais.
là ça va changer hein, parce que avec c'est en Italie
C'est pas
où
Berlin? Non, Berlin, à Bruxelles. Je sais plus.
je crois que c'est en Italie ou en Angleterre où Uber Eats a perdu où les salariés sont considérés enfin les livreurs sont considérés comme salariés, donc ça va servir de jurisprudence pour toute l'Union européenne. Donc je pense que ça va venir parce qu'aujourd'hui effectivement ils exploitent la misère humaine hein, je veux dire aujourd'hui ces sociétés-là. Alors après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une société qui a créé de l'emploi, qui a donné des opportunités aux gens pour avoir des métiers qui sont éphémères. Mais le
Mais avant,
problème,
ça payait bien, maintenant, ça paye
mais
beaucoup
voilà,
moins.
ils ont fait en sorte que tout le monde vienne en payant bien les gens. Et une fois qu'ils sont là, qu'ils sont condamnés à faire ça, ils ont diminué leur rémunération brutalement, sans accord, sans rien. Donc c'est là, en fait, où c'est pas du tout bien pour la société ni pour les personnes qui y travaillent.
Mais c'est plus éthique.
C'est plus éthique. Au départ, le système peut l'être, mais c'est la façon dont c'est géré derrière qui fait que eux sont dans le système, voilà, où c'est.
Bah c'est le rendement et la croissance,
Ouais.
hein.
Ouais, ils pensent pas au bien-être des salariés. Aujourd'hui, les livreurs, ils sont des fois désagréables, mais tu peux que les comprendre, en vrai. Ils sont tout le temps sous pression, et s'il y a un retard, c'est eux qui sont pénalisés. Enfin, nous, on essaie toujours de leur donner de la force à ces livreurs, parce que les pauvres.
Mais s'il est payé mieux, on se dirait, mais ouf qu'ils sont là parce que je me disais, mais tu peux pas payer toi un livreur.
Non,
T'as
non,
tellement de choses à payer.
non, c'est sûr. Mais bon, Uber Eats et Deliveroo ne seraient pas là, je l'aurais inventé.
Voilà.
Ou à quelqu'un d'autre l'aurait
Oui.
fait. Mais ouais, non, quelqu'un d'autre l'aurait fait forcément. C'est logique qu'il soit
Mais ça, parce qu'ils étaient déjà là avant pour bien
là. Ouais,
décoller
bien sûr.
et continuer, quoi. C'est vrai qu'ils me répondaient des fois à 5h30 sur LinkedIn.
C'est
C'est
vrai.
l'heure où tu te lèves ou l'heure où tu te couches?
En général, je me couche à 6 heures pour me lever à 10 heures. Je fais juste en général, je vais courir de 5 à 6 quand même pour décompresser de la journée de travail. Parce que comme dit, maintenant qu'il y a l'épicerie où il faut produire pour Biocoop, etc., ça commence à être un bon rendement. Donc il faut répondre à la demande. Et voilà, mais comme dit Ben dans le poste, c'est quand on a connu une année comme ça, finalement on peut être que content de se coucher tard sans dire qu'il y a du travail. Et voilà, il faut travailler pour s'en sortir. En vrai, il n'y a pas d'autre, y a pas de magie. Hein. Ça, tout passe par le travail. Hein. Tout, enfin, il y en a qui ont la chance, effectivement, d'être issus d'un milieu plus aisé, ou qui ont des facultés, ou qui ont plus de chances de réussir, etc. Moi, j'ai une famille modeste, j'ai pas tout un réseau derrière moi, j'ai dû construire ça. Et par les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, bah, ça m'amène là aujourd'hui. Et grâce à mes parents, j'ai cette force de résilience qui me permet de ne pas lâcher et de travailler toujours plus.
De toute façon, dans la restauration, déjà, tu as des horaires très,
Déjà, voilà.
très serrés.
C'est ça.
Donc, si tu veux rajouter une activité, faut que tu fasses des concessions.
C'est ça. Donc, c'est la nuit.
Et tu peux pas centraliser à un moment la fabrication du granola?
On est en train de regarder, en fait, avec
C'est une bonne idée, tu vois, pour dormir.
Ouais, non, bah, pour dormir, oui. Après, c'est surtout parce que là, on est en train de travailler sur une stratégie pour se développer sur le territoire national. Donc, il y a des projets à moyen terme. Donc là, on discute avec différentes usines de fabrication artisanale pour vraiment produire en beaucoup plus grande quantité pour répondre à la demande, parce qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui, mais on commence à être à une capacité de production qui reste limitée. Donc au bout d'un, enfin, faut que je dorme quand même au moins 2-3 heures. Donc au bout d'un moment, là, on est en train de regarder et on est en train de mettre ça en place pour que d'ici août-septembre, toute la production soit faite en Alsace par une usine qui est spécialisée là-dedans et qui puisse envoyer partout ça en France.
Et je pense que tu veux pitcher aussi ton produit à la centrale du Biocop.
C'est l'objectif.
Bah ouais.
L'objectif, ouais. L'objectif. En fait, là, on est content parce que c'est vrai que Biocop, nous, on les a rencontrés un mardi. Ils font toujours une visite de contrôle pour vérifier, bah voilà, je trouve ça, c'est super pro. Parce qu'en plus d'être certifié bio, donc ils savent que derrière il y a une visite pour être certifié bio, bah, eux font également une visite complémentaire pour vraiment être certifié Biocoop, quoi. Donc je trouve que ça donne une image beaucoup plus forte encore du. Enfin, c'est encore plus concret de se dire qu'on est chez eux, c'est que vraiment on est validé par le concept. On a fait un entretien chez eux un mardi à 14-15 h, ça a duré 30 minutes. Ils sont tout de suite après la visite, ils se sont dit ok, on y va, ils sont venus faire le contrôle. Et on a signé tout de suite, parce qu'ils ont beaucoup aimé nos produits, on a eu beaucoup, enfin, beaucoup de chance, beaucoup de travail, mais le feeling est super bien passé et tout. Et du coup, voilà, on a réussi à pitcher et c'est passé super bien. Donc là, l'objectif, effectivement, c'est Biocoop France et international. Il faut viser loin.
Normal. Il y a d'autres
Enchaîne.
magasins ouais, tu voudrais avoir.
Ouais, bah là, on
Monoprix, je
regarde.
sais pas si c'est
Non,
trop. C'est déjà
nous,
trop.
trop GMS.
Ouais.
GMS, nous. L'objectif à terme, c'est quand même, je pense, d'avoir des produits qui peuvent s'intégrer dans ces systèmes-là, parce que c'est aussi des classes qui ne pensent pas forcément à mieux consommer. Il faut le dire, hein. Ceux qui veulent bien consommer, etc., vont principalement dans les magasins spécialisés, magasins qui sont en ville ou en périphérie. Dans les grands magasins comme ça où tout le monde va, il faut effectivement les toucher aussi. Et ça sera plus à terme.
Naturalia, je pense. Non?
C'est pareil,
Trop.
Naturalia, en fait, il faut se dire que c'est une centrale
C'est
d'achat.
Monoprix, je crois, non?
C'est
Voilà.
un groupe. Hein. Ils ont diverses marques pour essayer de toucher tout le monde, mais eux, ils achètent des produits en grande quantité, ce qui fait qu'ils cassent les prix. Et donc, quand ils cassent les prix, bah, du coup, notre produit va se retrouver à 3 euros, et puis dans le magasin spécialisé à côté, il sera à 4 euros.
Mais je trouve ça quand même cher, Naturalia. Je savais pas qu'il faisait comme ça.
Ah, c'est moins cher qu'en tout cas que les. Après, ça dépend de certains produits, hein. Mais en tout cas, je sais qu'ils cassent les prix par rapport aux petites boutiques. Et nous, notre volonté, c'est pas ça, parce que les petites boutiques, elles auront la pédagogie d'expliquer le produit aux gens, de discuter avec eux. Il y a tout un. Puis ça crée de l'emploi qui est local, qui est l'humain. Paye les impôts en France. Les grandes chaînes qui payent pas les impôts en France. Donc il y a tout ça à penser derrière. Mais à terme, effectivement, l'objectif, c'est sur d'autres produits de toucher la GMS pour aller au contact d'une autre clientèle. Et pour aussi leur apporter de la pédagogie d'une autre manière. Mais là, actuellement, c'est plus Biocoop, côté nature, Satorize, des chaînes qui sont développées en France et qui ont une éthique qui est totalement viable. et qui travaillent main dans la main avec les producteurs locaux, avec les fournisseurs locaux, et qui s'attachent à respecter la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation.
Et c'est plus pertinent si sur un petit carré ça marche, après tu peux monter et dire ouais, notre épicerie, enfin nos produits d'épicerie ils sont aimés, alors tu peux aller plus loin, enfin
C'est
tu peux y
ça.
aller doucement. Tu
C'est
peux pas
ça.
aller chez Leclerc et faire bonsoir, alors je vends des granolas. Enfin,
Non, non, après
déjà on n'est pas sur la
ça
même
peut y aller
cible.
un coup de bluff. Hein. Je veux dire, là, par exemple, j'ai eu un truc ouf, mais mon stagiaire qui est arrivé là, Malo, qui est arrivé semaine dernière, il a fait un post, une story où il demandait dans quelle boutique on allait être implanté, parce qu'on a intégré une nouvelle boutique. Il a mis un jeu de mots pour Satoriz. Satoriz National nous a répondu. Et je lui ai dit, tu vois, Malo, un community manager, comme un business developer, vous avez un rôle qui est aussi important parce qu'à votre échelle, vous pouvez toucher tout le monde dans n'importe quel moment, n'importe quel sens, vous avez tous votre rôle à jouer. Ce que je leur dis, hein, moi, quand ils intègrent l'entreprise, les stagiaires ou les salariés, c'est quand on est une petite structure comme ça, on a autant d'impact les uns que les autres. Moi, je suis juste là pour chapeauter finalement. Moi, je dis toujours que je suis entouré de génies et moi, je suis juste un peu un chef d'orchestre. Mais les génies, c'est eux. Et Malo, il est de l'EM. Il a apporté ça. Je veux dire, en 2 jours, il a Satoriz National qui lui répond et qui lui dit, on va vous piquer votre jeu de mots. Ça peut être que gratifiant pour lui, quoi. Donc ouais, l'objectif, c'est ça. Mais bon, comme dit, il y a quelques mois, ça me paraissait tellement loin, Biocop, qu'aujourd'hui, c'est un petit morceau de bonheur. Mais tout de suite, il faut se remettre au travail. Et là, maintenant, l'objectif, effectivement, c'est d'aller chercher Colmar, Mulhouse, les petites villes aux alentours.
Mais eux, ils peuvent pas te faire l'attraction, enfin,
Si,
les
après,
autres.
Biocop, c'est indépendant chacun.
Ouais.
Et puis, bon, après, je laisse surtout ma stagiaire, qui est un business developer, gérer la partie prospection. Moi, je me concentre surtout sur la partie production. Je les conseille s'ils ont besoin, etc. Mais vraiment, chacun a son rôle. Et il ne faut pas que j'empiète là-dessus, parce que sinon, ça me prendra encore plus de temps. Et ils font chacun très bien leur travail. Donc moi, enfin chacun a son rôle. Et là, l'objectif, c'est de prospecter au fur et à mesure, d'avancer de territoire en territoire. Déjà, d'être à Strasbourg, c'était... Moi, depuis mars, tous les jours, je me demande si demain, je serai encore ouvert. Donc quand on dit que ça, depuis mars, ça fait 1 an, je commence un peu à respirer et à me dire, bon, bah c'est cool, maintenant l'épicerie se développe. Mais le problème, c'est qu'on confine encore pour les restaurants, quoi.
Mais je me dis, on est plus près de la fin que du début.
Pour le Covid?
Ouais. Je sais pas toi, comment t'as ta vision sur le Covid.
Franchement, je sais pas. Honnêtement,
Au jour le jour, toi.
bah en fait, je me projette à moyen terme, mais je me dis juste qu'il faut s'adapter. Je m'attends pas à que demain ça réouvre comme à demain ça ferme. Je m'adapte à la situation, je la prends comme elle est. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je suis pas président, je peux pas décider, malheureusement. J'aurais bien aimé. Peut-être un jour. Mais ouais, non, En fait, je me projette vraiment pas là-dessus. Je me dis juste qu'il faut s'adapter à la situation. Voilà, j'ai créé l'épicerie pour m'adapter au fait que les restaurants fermaient. Il va falloir que je m'adapte. Si les restaurants ouvrent pas, il faut trouver d'autres solutions et d'autres solutions.
Quel est ton plus grand défaut?
Mon plus grand défaut, d'être têtu. Je suis têtu, c'est-à-dire que si j'ai une idée en tête, faut me trouver les arguments pour me dire que c'est pas la bonne idée. Sinon, moi, je vais vouloir essayer, et si ça marche pas, là, je reconnaîtrai sans problème que ça n'a pas marché et que c'est ma faute. Mais si on contredit pas, s'il n'y a pas d'arguments qui sont pertinents, ou s'il n'y a pas de majorité en face de moi là-dessus, je vais aller au bout de mon idée, puis j'adapterai après.
Mais être têtu, c'est aussi une qualité, je suis désolée, parce que si tu montes un projet et si t'es pas têtu et borné pour avancer,
Bien
t'abandonnes.
sûr, bien sûr. Mais des fois, quand on est avec Ben et Joe, Joe me compte le nombre de fois où il a dit qu'il avait raison et qu'il a réussi, il a eu raison et moi j'ai eu tort. Parce qu'effectivement, des fois, je suis obstiné sur des trucs. Par chance et par réflexion aussi, ça n'a jamais porté préjudice. Mais ouais, être têtu, c'est aussi une qualité. Hein,
On va dire que c'est son grand âge,
mais.
c'est pour ça il a plus
Ouais,
d'expérience.
voilà, Joe, il a la trentaine, bientôt la quarantaine, donc.
Non, il a... arrête, je crois qu'il va avoir 35.
Non,
Il a 35.
je sais pas, quoi.
Il a bientôt 40. Bientôt, à tes 50 ans. Non,
J'ai vu quelques poils blancs, donc.
est-ce qu'il y a un truc que tu détestes faire dans ton métier?
Ce que je déteste faire, c'est de me dire que je peux pas payer. C'est-à-dire si demain j'ai une facture qui est en cours et que les aides elles sont pas encore arrivées ou quoi, c'est de dire, enfin, moi je le fais, hein, j'appelle le fournisseur, mais ça me gêne parce que j'aime pas ne pas être à jour. Mais des fois il n'y a pas le choix, il faut jongler. Et moi ce qui me peine c'est de me dire que je peux pas. Ouais, je pense que c'est ça. C'est la seule chose que je déteste parce que même la plonge j'aime bien en vrai. Faire la plonge c'est un moment où on réfléchit beaucoup. Donc non, franchement, sans ce que je fais, j'aime.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager?
Alors, j'en ai une récemment.
Merci.
Récemment. Et ça franchement, ça m'a... Ça m'a... C'est entre le up et le down qui m'ont calmé, où je me suis dit, ouais, ne vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça. En fait, on a eu le rendez-vous chez Biocop. Mais une semaine avant, on avait rendez-vous dans une autre boutique. Et Ilona, du coup, qui est business développeuse, elle parle de la partie produit, prix, etc. Et sur le moment, quand elle parle des prix que les boutiques doivent acheter pour nous, ça m'a fait tiquer, je me dis, mais attends, ils sont un peu bas, ce qu'elle dit. Parce que du coup, ça me marque pas plus que ça, mais je me dis, c'est quand même bas. Semaine d'après, on va chez Biocop. Et là, ça me rappelle le tilt à l'entretien, et je me dis, mais ils sont quand même bien bas les prix que t'as donné. Bon, ils viennent, ils font la visite, on est tout contents, ils ont signé, je vais fêter ça avec Ben et Joe et tout. Et le soir, pendant la plonge, je me dis, pareil, la plonge, c'est un moment qui me fait beaucoup réfléchir le soir. Et je me dis, mais attends, je me rappelle de l'entretien, le prix est quand même bien bas. Du coup, je vais voir sur mon ordi et tout. Et en fait, sur toutes les plaquettes qu'on avait distribuées à la dernière boutique, il y a deux, trois autres boutiques aussi, et même à Biocop, qui avait validé, le prix qu'on affichait, c'était le prix de coût de production. Donc c'est-à-dire que c'était le prix coûtant. C'est-à-dire que si demain on leur vendait à ce prix-là, nous on gagnait rien. On produisait gratuitement pour eux. Ah, il était à ce moment-là minuit, 1 heure. J'appelle Ilona. Je dis, Ilona, j'ai merdé. J'ai merdé. Parce qu'en plus, c'est des trucs avec Ben. Lui, Ben, il déteste faire les fiches produits, à modifier les prix, les ingrédients, parce que c'est quelque chose de très redondant, répétitif, qui est très chiant. Et je les appelle et je leur dis, non, mais là, il y a un problème et tout, faut tout qu'on modifie et tout. Putain, on a signé Biocop, comment on va faire? Du coup, à minuit, 1 heure, je me retrouve à rédiger des mails à chaque. Il y avait 3-4 boutiques dans le lot. Après, c'était 3 boutiques qui s'entendaient très bien. Et même eux auraient compris. Parce que lors de l'entretien, on leur a bien dit qu'il y avait tant de pourcentage chacun, que c'était une juste rémunération du producteur comme du revendeur, et que la marge était de tant. Donc même eux ont dû être surpris quand ils ont vu le prix. Ils se sont dit, mais non, là, c'est le double. Parce que finalement, je donne n'importe quoi. Mais si on fait 30-30, là, ils avaient 60. Donc ils ont dit, mais c'était énorme. Et en plus, ça nous avait fait tilt parce qu'une boutique. Un petit peu, il y a un mois avant, ils nous avaient dit, mais vous devriez augmenter vos prix, parce que là, vraiment, vous faites pas beaucoup de marge, à mon avis, machin. Et ça, sur ce coup, ça n'avait pas tilté. Et du coup, le lendemain matin, tout stressé, j'appelle, là, c'est vraiment un coup de stress, j'appelle Biocop. Mais il n'y a pas de souci, on s'est douté et tout, machin. Mais j'ai passé une nuit.
T'as
Déjà que
pas
je dors pas
dormi.
beaucoup. Mais là, j'ai dormi par fatigue, mais. Je me suis réveillé, j'ai mon réveil, il a pas eu le temps de sonner une seconde, que j'étais déjà au téléphone en train de les appeler pour leur dire et tout. Heureusement, tout est passé. Mais là, je me suis dit, vraiment, vérifie tout encore, encore et encore. Enfin, dès que t'as un doute sur un truc, parce que vraiment, pendant l'entretien de première boutique, j'ai vu le... Et ça, ouais, ça, c'était une grosse frayeur. Je me suis dit, putain, si là, on n'a pas ça, c'était fini, quoi. Enfin, ils auraient pu nous dire, bah non, du coup... Vous faites tant de marge, là du coup ils savaient notre marge, ils savaient tout. Ils auraient pu tout savoir. Et finalement, non, ils ont grave joué le jeu, ils ont dit non, mais on comprend totalement, il n'y a pas de souci. Franchement, on a eu de la chance. Mais ouais, ça c'était une anecdote récente. Et quand j'y ai repensé, là, quand j'y repense des fois, je me fais des coups de frayeur tout seul.
Là, tu regardes les prix, tu fais
Ah
ça.
ouais, non, mais là je regarde, hein, je les ai en tête, je dis ah ouais, non. Ah ouais, j'ai encore des plaquettes au bureau qui sont avec les faux prix. Hein. Celles-là, je vais les brûler parce que s'il y en a un qui te la sort en entretien.
Y en a qui sont un peu tête de con et qui t'auraient dit voilà, ben on a signé ça en fait, donc t'arrêtes.
Ils auraient pas. Bah, j'aurais dit dans ce cas-là, je peux pas travailler avec
Ah
vous.
ouais.
Mais Biocop, voilà, on n'aurait pas pu, quoi. Enfin, on n'aurait pas pu se passer d'eux. Mais surtout, c'était un manque de professionnalisme de notre part, de ne pas avoir contrôlé ça. Enfin, de ma part, c'est complètement ma faute. Et parce qu'il y a tellement de chiffres dans les tableaux et tout que j'ai mélangé ça et je n'en revenais pas moi-même. Mais puis derrière, ils auraient surtout dû pu dire, bah non, le prix finalement que vous voulez proposer, bah maintenant qu'on sait combien il vous coûte, vous pouvez baisser encore. Ça se
Ouais.
prend naturellement à Monoprix, c'est sûr qu'ils auraient fait quelque chose comme ça.
Oh, ils auraient dit cool, on peut pas encore baisser.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça.
Un euro, non?
Donc ouais, c'était l'anecdote.
Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Qu'on m'a donné, je dirais que c'est qu'on apprend aussi bien des personnes qui savent faire que des personnes qui ne savent pas faire. Ça, c'est un, comme dit, hein, que ce soit sur les cuisiniers que j'ai eu ou dans toute ma vie, il y a beaucoup à apprendre des personnes qui font mal les choses parce qu'il faut faire tout l'inverse. Et les personnes qui savent bien faire, il faut s'en inspirer. Souvent, on jalouse. Mais moi, pour réussir à être au top, je m'en inspire grave, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des athlètes ou de n'importe. Pour être au top, il faut toujours s'inspirer des gens et jamais les jalouser. Et s'inspirer aussi des personnes qui font mal. Des fois, même les conseiller, leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils fassent autrement. Ils t'écoutent pas et t'écoutent pas. Mais du moment que toi, t'écoutes ce qu'ils font et que tu te dis, bon, bah là, c'est pas bien et que tu fais autrement, bah tant mieux. Et après, le conseil que j'ai appris avec le temps, c'est que la patience, c'est vraiment la clé du bien-être. Ça, c'est important.
Ben, merci Arthur.
Bah, merci. Merci pour cet entretien.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.